Pouvez prendre place et je vous invite à prendre avec grande joie et reconnaissance vos Bibles, puisque Dieu nous donne sa parole depuis tant d'années, et nous voulons l'ouvrir au psaume 124. Psaume 124, qui sera l'objet de la prédication ce matin. Cantique des montées de David. Sans l'Éternel qui était pour nous, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui était pour nous, quand les hommes s'élevèrent contre nous, alors ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, un torrent aurait passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Voilà ce psaume 124 que nous allons méditer ensemble tout à l'heure. Et je vous invite à lire un deuxième texte qui a un lien avec ce psaume. C'est le texte de Romains 8. À partir du verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou le dénuement? Ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Sans le Saint-Esprit, les pensées, les raisonnements qui s'élèvent contre notre foi, en fait, nous engloutiraient, nous submergeraient et nous emporteraient loin de la parole de Dieu et de sa compréhension. Sans le Saint-Esprit, nous serions submergés par toutes les pensées qui sont véhiculées autour de nous. Mais béni soit le Saint-Esprit qui ne nous livre pas au loup, qui nous fait échapper au filet de l'oiseleur. Ce Saint-Esprit éclaire notre cœur et notre esprit pour saisir, pour comprendre, pour retenir, pour appliquer, pour transmettre la parole de Dieu. Et nous comptons sur lui encore ce matin pour nous guider. Et je vous invite, quand vous lisez votre Bible, pourquoi pas, à demander à Dieu chaque fois que cette parole vous saisisse. J'aime prier avant de lire la Bible, Seigneur, fais que j'aime ta parole, que je l'aime, que je la saisisse, que je la comprenne, que je la retienne, que je l'applique et que je la transmette. Que nous puissions avoir tous cette prière et cette prière, nous l'adressons à Dieu et nous comptons sur le Saint-Esprit ce matin. Et depuis le début de l'année, nous faisons un cheminement ensemble avec le pèlerin qui monte vers Jérusalem. Nous allons vers notre Jérusalem céleste et dans ce cheminement, eh bien, nous avons déjà vu quelques psaumes qui nous accompagnent. Le psaume 120 nous indiquait d'où venait le pèlerin. Le psaume 121, qui est le secours du pèlerin? Le psaume 122 parlait de l'objectif du pèlerin. Le psaume 123 parlait du regard du pèlerin vers celui qui fait grâce. Et le psaume 124, pour aujourd'hui, est un cantique de remerciement pour la délivrance. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte en lisant ce texte, mais nous ne trouvons aucune demande dans ce psaume. Nous ne trouvons aucune demande dans ce psaume, uniquement la description de faits qui indique l'œuvre de l'Éternel, l'appel à bénir l'Éternel et une affirmation du psalmiste. Donc c'est un psaume, un cantique de reconnaissance pour la délivrance. C'est le titre que je donne à cette prédication, c'est le pèlerin reconnaissant pour la délivrance, tout simplement. Nous verrons dans un premier temps que le pèlerin prend conscience du danger. Le pèlerin va prendre conscience du danger. Et ensuite, nous verrons que le pèlerin nous parle de la manière dont l'Éternel le délivre. Et pour terminer, il donne une affirmation fondamentale pour tout pèlerin que nous sommes. On va commencer par cette prise de conscience du danger, la prise de conscience du danger du pèlerin. On va relire les cinq premiers versets qui concernent cette partie-là. Donc, psaume 124, versets 1 à 5. Donc, cantique des montées de David, « Sans l'Éternel qui était pour nous, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui était pour nous, quand les hommes s'élevèrent contre nous, alors ils nous auraient engloutis tous vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, un torrent aurait passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. » Pour bien prendre conscience du danger, on va prendre un petit peu de temps pour réfléchir à ce que David dit ici, parce qu'il utilise beaucoup d'illustrations dans ce psaume, et il est utile de bien les saisir pour comprendre son message. Et je vous encourage à garder le psaume sous les yeux, ou même si vous avez pris le petit papier, il y a derrière le psaume avec une structure qui permet encore mieux de voir cette structure du psaume, puisqu'il y a des parallélismes, etc. dans ce psaume qui sont très fréquents. Les versets 1 à 5 pousse le pèlerin à réfléchir à quelle serait sa situation sans l'Éternel. Si l'Éternel n'agissait pas en faveur du pèlerin, sans l'Éternel qui était pour nous, que serait-il arrivé s'il n'y avait pas l'Éternel? Et David présente ici deux situations. La première, c'est quand les hommes s'élevèrent contre nous, ou la deuxième, quand leur colère s'enflamma contre nous. Sans l'Éternel, que serait-il arrivé? Alors déjà, s'élever contre, c'est se mettre au-dessus, s'ériger contre, être supérieur, ou on peut dire même fondre sur, ou faire le siège. Comprenez? C'est ça, s'élever contre. S'élever contre, c'est prendre un pouvoir, ou mettre une grande pression, avec une force supérieure, que ce soit en nombre ou en moyen. Hein, s'élever contre, c'est prendre un pouvoir, ou mettre une grande pression par une force supérieure, que ce soit en nombre ou en moyen. Quelque chose ou quelqu'un qui s'élève contre nous, c'est comme un grand mur infranchissable qui se place sur notre chemin de pèlerin. Ou une gigantesque montagne qui bouche toute notre vue. Ou encore un énorme dinosaure qui nous menace. Ou encore une grande vague d'eau qui va nous engloutir. C'est ça en fait, ce que le psalmiste souligne ici, quand les hommes s'élèvent contre nous. Ou encore, il dit que leur colère s'enflamme contre nous, s'enflammer contre nous, c'est chercher à consumer, à brûler, à détruire, ravager avec détermination et fureur. Vous avez déjà vu des flammes? Vous avez déjà vu un incendie? Oh, je ne parle pas du petit feu pour griller nos cervelas. Je parle d'un incendie. Je me souviens, j'étais marqué en fait quand j'étais à l'école primaire par un incendie qui a eu dans le village. C'était une ferme au milieu du village qui a pris feu. Impossible de l'arrêter. Impossible. Les pompiers ont d'ailleurs bien du mal à protéger les maisons alentour. Le feu ravage, détruit avec fureur. Et face à ces deux situations, donc d'avoir cette notion des hommes qui s'élèvent ou en fait de la colère qui s'enflamme, David décrit les conséquences sans l'Éternel. Sans l'Éternel, que se passerait-il? Eh bien, il utilise trois illustrations liées à l'eau. Et l'eau correspond en fait ici aux hommes qui s'élèvent, à leur colère qui s'enflamme contre le pèlerin. Et voici ces trois illustrations. Ils nous auraient engloutis tout vivant. Les eaux nous auraient submergés, les flots impétueux du torrent aurait passé sur notre âme. Engloutir, c'est faire disparaître brusquement en noyant. Ça, engloutir, hein? Faire disparaître brusquement en noyant. C'est une grande masse d'eau qui arrive tout à coup et qui fait tout disparaître. Comme, si on le prend cette fois-ci dans la vie d'un homme, comme un scandale peut faire disparaître une réputation. Tout à coup. Submerger, c'est envahir, remplir complètement et recouvrir. Et c'est un peu différent. C'est l'eau qui arrive et qui petit à petit recouvre tout. C'est submerger. Comme toutes sortes d'idées pernicieuses que l'on passe un peu comme on coupe un petit saucisson jusqu'à ce qu'il soit totalement passé. Et nous sommes totalement submergés par des pensées que nous n'avions jamais précédemment. Et après engloutir et submerger, la troisième illustration, c'est passer dessus. Alors, c'est pas juste passer dessus comme ça, comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Il est parlé d'un torrent au flot impétueux. Donc, passer par-dessus, ici, c'est écraser, écorcher, charrier, emporter. C'est de l'eau en mouvement qui emporte tout. Comme une grande armée ou un groupe armé qui rase un village. Et ces illustrations indiquent clairement que sans l'Éternel, parce que ça c'est sans l'Éternel qui était pour les pèlerins, ils n'avaient aucune chance de s'en sortir. Aucune. Aucune. Comme les habitants qui habitent sur une côte, lorsqu'un tsunami arrive, ils n'ont aucune chance à ce moment-là. C'est avant qu'il faut partir. L'Éternel permet parfois que son peuple voie le danger avant de le délivrer. Parfois, on ne le voit pas, il nous a délivré avant, on ne s'en est pas rendu compte. Mais parfois, il permet qu'on se rende compte. Et dans la parole de Dieu, nous voyons plusieurs fois que Dieu permet au peuple de voir le danger, de se dire, mais maintenant, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Et à ce moment-là, il intervient. Afin que le peuple se rende compte que sans l'Éternel, il est perdu. Un petit peu faire de la mémorisation biblique, enfin plutôt d'aller rechercher dans votre mémoire biblique. Est-ce que vous connaissez des situations bibliques où l'on peut voir que le peuple était dans une situation perdue, et que sans l'Éternel, ils auraient vraiment été perdus? On peut réfléchir, hein? C'est vrai que la connaissance biblique nous aide à saisir ça. Et par exemple, lorsque le peuple sort d'Égypte, il est rattrapé par l'armée de Pharaon. Devant eux, il y a la mer, donc pas de passage. Voilà des hommes qui s'élèvent contre son peuple. Et sans l'Éternel qui était pour eux, les Hébreux auraient péri ou alors auraient dû retourner en esclavage. C'est évident. Et ils s'en sont rendus compte. Nous sommes perdus. Mais l'Éternel était pour eux. Il a ouvert la mer. Ils ont pu passer et échapper d'une manière totalement inattendue pour eux à ce flot de l'armée qui allait les submerger. Et l'Éternel, en fait, n'était pas pour les Égyptiens qui sont entrés dans la mer après le peuple. Et ils ont été engloutis, submergés. Les flots impétueux ont passé sur eux. Vous voyez la différence entre avec l'Éternel ou sans l'Éternel. Et le psalmiste, dans le psaume 124, nous pousse à réfléchir, mais sans l'Éternel, voici ce qu'il se passe. Ou bien une autre situation, ça c'est juste après la sortie d'Égypte. Ils sortent d'Égypte, le peuple n'est pas du tout exercé à la guerre, et voilà qu'un roi vient et veut attaquer Israël. Bien sûr, il y a beaucoup de biens et tout ça, c'est Amalek qui arrive. Et dans ce combat, il y a quelque chose de très intéressant. Tant que Moïse levait les mains vers l'Éternel, Israël gagnait. Quand il baissait les mains, Israël perdait. Ça représentait en fait le fait d'être... Quand Moïse levait les mains, c'était que l'Éternel était avec son peuple. Et quand il les baissait, l'Éternel n'était plus avec son peuple. C'est uniquement parce que l'Éternel est avec son peuple qu'ils ont gagné cette bataille. sans l'Éternel, ils auraient été submergés, ils auraient été effacés. On va aller plus loin. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël est arrivé en Canaan, il y a eu plusieurs déjà batailles, c'est vrai, mais à un moment donné, quasiment tout le pays de Canaan s'est mis en marche contre Israël. Donc c'est même pas Israël qui allait les attaquer, c'est tout le pays, c'est dans Josué 11 que l'on voit ça. Et ils formaient un peuple si nombreux, qu'il est écrit au verset 4 de Josué 11, qu'ils formaient un peuple en quantité aussi innombrable que le sable qui est sur le bord de la mer. C'est énorme ce qui arrivait contre le peuple. Des fois on a de la peine, on se dit bah, c'est des petites batailles, voilà. Non, c'est... En fait, le peuple n'avait aucune chance contre toutes ces armées entraînées qui venaient contre eux. Si l'Éternel n'était pas avec eux, ils auraient été engloutis, submergés, emportés. Très clairement. Mais il est dit dans Josué 11, verset 8, l'Éternel les livra entre les mains d'Israël. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Et nous trouverons ce refrain, l'Éternel les livra, tout au long du récit de la conquête de Canaan. Si l'Éternel n'était pas pour son peuple, il aurait disparu. On continue encore une ou deux exemples. Qu'est-ce qui vous vient? Gédéon peut-être? Ah oui, Gédéon, c'est le temps des Madianites, qui était aussi une puissance énorme. Le peuple d'Israël ne pouvait rien contre eux. Ils étaient en train de se faire grignoter. Ils leur prenaient toute la nourriture, etc. On a parlé de submerger, ça vient petit à petit jusqu'à ce que ce soit complètement couvert. Si l'Éternel n'était pas intervenu, que serait devenu ce peuple? Il serait resté esclave toute sa vie, ou pire encore. Mais l'Éternel a agi, et il l'a fait même avec 300 hommes. Mais sans l'Éternel, ces 300 hommes n'auraient rien pu faire. Ou un autre temps encore, c'est du temps d'Ézéchias. Ça, c'est un temps qui me touche souvent beaucoup. Parce que Ézéchias, donc il y avait une vague déferlante. Vous pouvez imaginer, c'est comme s'il y a un empire qui arrive ici en Europe, armé, et qui déferle sur toute l'Europe, et qui petit à petit s'approche de Neuchâtel. Puis en fait, il n'y a aucune chance de résister. Puisqu'en fait, tout a déjà été vaincu autour de nous. Et Ézéchias va devant l'Éternel. Il lui montre la lettre qu'il a reçue, qui était d'ailleurs défiante face à l'Éternel. Sans l'Éternel, le peuple aurait été, en fait, aurait subi la même chose que tous les autres peuples alentour. Mais il n'y a pas de sans l'Éternel. L'Éternel a délivré son peuple. Mais en fait, il l'a délivré au moment où le peuple s'est vraiment rendu compte que seul il ne pouvait absolument rien faire. C'était terrible ce qu'ils ont vécu. Et lorsque le peuple s'est éloigné de l'Éternel, ils ont été battus, Jérusalem détruite, le peuple déporté. Quand l'Éternel n'est pas avec le peuple est déporté. Mais l'Éternel reste quand même fidèle à son alliance. Il gardera toujours un reste et il l'a fait pour que Christ puisse venir, évidemment. En fait, si le pèlerin s'éloignait de Dieu, par rapport à ce psaume 124, Dieu n'était plus pour lui. Et il subissait la défaite et était dans une situation dramatique. À ce moment-là, il pouvait se demander, si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? C'est l'inverse de ce qu'on lit dans Romains. Parce que dans Romains, c'est si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Mais si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Aujourd'hui, nous avons le privilège de pouvoir vivre en Christ. Celui qui a parfaitement accompli la loi, celui qui a payé pour toutes les fautes, celui pour qui l'Éternel sera toujours sans aucune faille. L'Éternel sera toujours pour Christ, toujours. Toujours. En Christ, il est donc impossible que Dieu soit contre nous. Vous comprenez? Dieu ne sera jamais contre Christ. Si nous sommes en Christ, il ne sera jamais contre nous. C'est la conséquence de l'évangile de Jésus-Christ. Jamais Dieu ne sera contre une personne qui vit en Christ, parce qu'il ne peut pas être contre Christ. Et souvenons-nous de cela en toute situation. Dieu n'est jamais contre celui qui est en Christ. Jamais. Cela signifie que l'ennemi ne pourra jamais nous engloutir, nous submerger ou passer sur notre âme. Pour celui qui est en Christ, Dieu ne sera jamais contre lui. Oui, c'est vrai, nous aurons des tribulations dans le monde. Oui, nous vivons des souffrances. Et oui, certains vont même subir la mort. Mais nul ne peut toucher à la vie éternelle que nous avons reçue. Personne. Et Paul le dira d'une autre manière dans 2 Corinthiens 4, les versets 8 et 9. Il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Nous ne devons pas craindre ce qui tue le corps, car ce corps dans lequel nous vivons actuellement va être détruit de toute façon. Ce que nous devons craindre, c'est la mort de l'âme, c'est de périr dans la géhenne, comme Jésus le dit dans Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et celui qui peut tuer l'âme, c'est l'Éternel. Il vaut donc mieux que l'Éternel soit pour nous, et pas contre nous. Il y a beaucoup de dangers autour de nous, c'est vrai. Et trois ennemis y travaillent avec acharnement. Vous saviez qu'on a trois ennemis qui travaillent avec acharnement pour créer tous les dangers que nous avons autour de nous. Le premier, c'est Satan, qui cherche à détruire tout bien qui peut nous rappeler Dieu. Le deuxième ennemi, c'est le monde, qui nous harcèle avec ses messages immoraux, sa recherche de gloire, de profit, de plaisir à tout prix, et qui profite des plus faibles, enfin, etc. Et le troisième ennemi, c'est la chair, qui rappelle le péché encore si profondément collé à notre peau, notre cœur encore si souvent enclin à vivre selon son ancienne nature. Mais si tous ces dangers sont réels et sérieux, il y a encore un plus grand danger. Il y a encore un plus grand danger. Et ce danger est indiqué dans ce psaume. Le plus grand danger, c'est un petit mot dans ce psaume. C'est le petit mot « sans ». Le plus grand danger, c'est d'être sans l'Éternel. Sans l'Éternel, voilà le plus grand danger. Parce qu'il est le seul qui peut nous délivrer de tous les autres dangers. Le plus grand danger, c'est d'être sans l'Éternel. Sans Dieu, nous n'avons aucune chance contre le diable, contre le monde et contre la chair. Aucune. Ce qui signifie que nous allons premièrement et avant tout dans notre vie, oh que Seigneur nous fasse la grâce de saisir cette vérité. Avant tout dans notre vie, soignons notre relation avec Dieu. En fait, avant de chercher à se battre contre toutes sortes de péchés qui peuvent être là, c'est bon de se battre contre le péché, c'est biblique, Dieu nous l'enseigne, mais avant de faire cela, assurons-nous que l'Éternel est avec nous et que nous ne nous appuyons pas sur nos propres forces. Le plus grand danger, c'est d'être sans l'Éternel. Si le pèlerin réfléchit à ce qui aurait pu arriver sans l'Éternel qui est avec lui, il ne remet jamais en question dans ce psaume le fait que l'Éternel est avec lui. Parce que ce n'est jamais l'Éternel qui se détourne. C'est toujours l'homme. C'est jamais l'Éternel qui va se détourner. C'est l'homme, par son péché, enfin, etc. Et le psalmiste veut bénir l'Éternel et parler de la manière dont l'Éternel le délivre par deux images. C'est notre deuxième point. La manière dont l'Éternel délivre le pèlerin. C'est les versets 6 et 7. On va regarder ensemble ces versets. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés à la proie, en proie pardon, à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappé. À nouveau des illustrations. Comme je le disais tout à l'heure, Il faut un petit peu réfléchir à ces illustrations pour comprendre le message que l'on a ici dans ce texte. Et en fait, les deux illustrations nous parlent de la manière de délivrer le pèlerin. La première nous parle d'une victime face à un prédateur, avec les dents. Et la deuxième, d'une victime face à un oiseleur. Alors la victime face au prédateur est terrifiée, car elle sent le danger, car les dents sont sur son cou, des dents qui déchirent, tuent et dévorent. Vous vous rappelez de David devant Saül qui lui racontait comment il allait délivrer les brebis qui étaient dans la gueule des lions et des ours. Eh bien, l'image de David qui allait arracher les moutons des dents des ours et des lions afin qu'ils ne soient pas dévorés nous rappelle la bonté de Dieu qui ne laisse pas des prédateurs manger les moutons de son troupeau. Il ne laisse pas manger les moutons de son troupeau. Que l'Éternel soit béni. Il est le meilleur des bergers. Et vous savez, la victime ne peut rien faire face aux dents. Un agneau, quand il est face aux dents du loup, ne peut rien faire. Son secours doit venir d'ailleurs. Il doit être secouru par quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas nous délivrer nous-mêmes. Je vous ai dit avant, le plus grand danger, c'est d'être sans l'Éternel. Parce que nous sommes sans l'Éternel, nous n'avons aucun secours. Même si nous pensons pouvoir faire certaines choses, non, en fait, nous n'avons aucun secours. Mais ça veut dire ensuite que toutes nos délivrances sont en fait des chants de louange, d'honneur et de gloire pour Dieu qui est l'auteur de nos délivrances. Toutes nos délivrances seront en fait un chant de reconnaissance à l'Éternel. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais la deuxième image nous parle de l'oiseleur, un vieux métier. Vous connaissez ce métier ? Métier de l'oiseleur. C'est un métier qui est encore pratiqué aujourd'hui et que l'on appelle plutôt des spécialistes qui sont capables d'attraper des oiseaux avec des filets. Parce que oiseleur, c'est un peu moins utilisé comme terme. Et ces filets peuvent être tendus et mis de manière à ce qu'ils ne soient pas visibles pour l'oiseau. Ou bien, les filets peuvent être jetés sur l'oiseau. Comme ce qui a été projeté de faire en Valais quand il y avait un ibis, c'est un oiseau très rare qui s'était perdu. Puis donc un oiseleur était venu justement pour lui jeter un filet depuis 10 mètres pour essayer de l'attraper sans lui faire de mal. L'illustration de l'oiseleur ici ne montre plus la force ou la terreur qu'inspire l'ennemi avec ses dents, mais sa subtilité et sa ruse avec son filet. Vous pouvez imaginer l'oiseau qui vole gaiement, qui n'est pas conscient du danger, et paf, dans le filet. Que se passe-t-il à ce moment-là? Il essaie de voler, il commence à piailler, il essaie avec son bec de s'en sortir, et qu'est-ce qui se passe quand il fait ça? C'est pire. C'est pire, parce que le filet continue à s'entortiller autour de lui. Plus il bouge, plus il est pris dans ce filet. Il n'a aucune chance de s'en sortir par lui-même, aucune. Vous savez, Satan a tiré son filet. Il est l'oiseleur par excellence, et l'homme y a été attrapé. Vous connaissez ce qui s'est passé en Éden? Vous savez ce qui se passe dans vos propres vies? Le filet du péché est tendu et l'homme y est pris. Si Christ n'avait pas rompu le filet, l'homme serait resté prisonnier du filet du péché dressé par l'ennemi. Il serait resté prisonnier pour subir la mort éternelle. Mais à la croix, Christ a vaincu le péché de la mort et le filet de l'oiseleur s'est rompu et nous nous sommes échappés. C'est exactement ce qui s'est passé. Le filet a été rompu et nous avons pu nous échapper. Mais c'est vrai que Satan continue à tendre ses filets, ses méthodes n'ont pas changé. Il séduit en touchant nos sens, nos désirs, notre orgueil, notre égoïsme et notre incrédulité. Il utilise volontiers les mauvais compagnons, notre soif de posséder. Il fait encore des jolis coups de filet, malheureusement. Donc si vous vous rendez compte que vous êtes pris dans un péché, un filet de l'ennemi, ne cherchez pas à vous en sortir vous-même, ce sera pire. mais tournez-vous vers celui qui rompt le filet pour que vous puissiez vous échapper. Car il est écrit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable, 1 Jean 3, 8. Ou encore, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, Colossiens 1, 13. Ou encore, Jésus a participé au sang et à la chair afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus-Christ a le pouvoir de rompre le filet. Amen. Ah, on se réjouit. Heureusement. C'est pour ça, comme je le disais tout à l'heure, le plus grand danger, c'est d'être sans l'Éternel. Il n'y a aucun espoir sans l'Éternel. Le pèlerin, après avoir pris conscience du danger et constaté la manière dont Dieu le délivre, affirme simplement que le secours est dans le nom de l'Éternel. C'est sa conclusion, en fait. C'est le troisième point que nous voyons ensemble. C'est le verset 8. L'affirmation du pèlerin qui dit ceci, verset 8, « Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » L'affirmation est donc « Notre secours est dans le nom de l'Éternel. » Et la raison qu'il donne à son affirmation est que l'Éternel est le Créateur. C'est sa raison. S'il peut être notre secours, c'est parce qu'il est le Créateur. Ce n'est pas pour rien que l'ennemi de nos âmes se donne tant de peine à détruire la doctrine de la création. On le voit partout autour de nous. Parce que si on détruit cette doctrine de la création et que l'on ne croit plus qu'il y a un créateur, il n'y a plus de secours. Car sans la foi en ce Dieu créateur, l'Éternel n'est pas pour nous. Et le pèlerin qui ne croit pas au créateur ne peut rien faire face au danger décrit dans ce psaume. Pour comprendre un petit peu cette notion, est-ce que vous avez déjà vu une maquette de train miniature? Si vous n'avez jamais vu, je vous encourage à voir une fois. Chaque fois que je vois une maquette de train miniature, je suis émerveillé. Vous avez déjà un petit peu regardé tous les détails de ces maquettes? Il y a des montagnes avec des rochers, des arbres avec plein de petits détails, même avec leurs feuilles, des ruisseaux qui coulent, des petits lacs. Bon, bien sûr, des trains qui roulent aussi, hein, et qui sont bien ordonnés. Et quand j'étais enfant, j'avais un voisin qui avait une énorme maquette dans son grenier. Il la construisait année après année. Et puis, il avait en fait le plein pouvoir sur sa maquette. Il pouvait ajouter, enlever des montagnes. Il pouvait faire couler des fleuves ou les arrêter. Il pouvait même assécher des lacs, quand il voulait. En fait, rien dans sa création ne pouvait l'arrêter. Mon voisin était le maître de sa maquette. Eh bien, vous savez que la Terre et l'univers, bien plus complexes qu'une maquette de train, sont créés par le maquettiste qui est Dieu, qui a tout pouvoir. Dieu garde le plein pouvoir sur sa création. C'est pourquoi notre secours est dans son nom. C'est par le nom que l'on appelle une personne, pour ça que l'on dit que le secours est dans le nom de l'Éternel. Et donc, il garde le plein pouvoir sur sa création. Il peut tout faire. C'est lui qui a fait sa maquette. Alors, vous comprenez, c'est limité l'image, mais c'est lui qui a cela dans sa main. Et cette illustration nous aide à comprendre le pouvoir de Dieu sur sa création. Dieu est plus puissant que le maquettiste de train, parce que lui, il peut créer de la vie à partir de rien. Le maquettiste, il n'arrive pas à bien faire ça, c'est sûr. Mais Dieu peut tout faire. C'est pourquoi notre secours est dans l'appel au divin maquettiste qui connaît parfaitement toute sa création et qui a la capacité d'intervenir jusque dans nos cœurs pour les transformer. Sans l'Éternel qui était pour nous, chers frères et sœurs en Christ, sans l'Éternel pour nous ici maintenant en 2016, sans l'Éternel qui était pour nous, nous serions perdus pour l'éternité. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Nous serions perdus. Nous serions malheureux. Parce que Christ ne serait même pas ressuscité. Donc que tout ce que nous faisons, même venir au culte ici, ne servira à rien du tout. Nous serions les plus malheureux des hommes. Sans Dieu, sans l'Éternel, nous serions perdus. Et si quelqu'un ici ne croient pas en Jésus-Christ. Je ne parle pas de vivre une vie qui est semblable à une vie chrétienne, je parle du cœur. Ne croient pas en Jésus-Christ qui a tout accompli pour te sauver de la mort éternelle que nous méritons à cause de nos péchés. Si tu ne te repens pas de ton péché, tu es sans l'Éternel. Et l'Éternel est contre toi. Et la seule chose que je peux dire, venons tous à l'Éternel. Reconnaître notre faute, saisir par la foi l'œuvre de Christ, afin de pouvoir dire comme tous ceux qui sont en Christ, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Il a tout accompli, pourquoi il ne l'accomplirait pas jusqu'au bout? Qui accusera les élus de Dieu? Qui? La réponse dans le texte original implique une réponse négative. Personne. Parce que Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? À nouveau, la question amène une réponse négative. Personne. Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Si quelqu'un, si même votre propre conscience vous condamne, que faites-vous? Vous la dirigez vers Christ. C'est lui qui nous justifie. Nous ne la dirigeons pas vers nous-mêmes pour nous justifier nous-mêmes. Ça ne sert à rien, nous ne pouvons pas. Christ est celui qui nous justifie. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? À nouveau, implique une réponse négative. Rien. Et là, l'apôtre veut le développer pour qu'on comprenne vraiment qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Hein, vous vous souvenez de ce texte? Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ceux d'en bas, ni aucune autre créature, ni moi-même, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Le pèlerin, par le psaume 24, est invité à se souvenir des délivrances passées afin de reconnaître l'œuvre de l'Éternel. C'est ça le psaume 24. Pour que nous soyons reconnaissants pour l'œuvre de Jésus-Christ. Et à notre tour, souvenons-nous des délivrances passées, que ce soit dans la parole de Dieu, dans l'histoire de l'Église, dans nos propres vies. Essayez peut-être aujourd'hui, à table, à midi, de dire, mais on va essayer de trouver une chose, une délivrance dans la Bible, une délivrance qui s'est passée dans l'histoire de l'Église et une délivrance qui s'est passée dans notre vie. Et on va remercier Dieu pour cela. Que l'Éternel nous encourage et nous donne cette joie de parler et de nous réjouir des délivrances passées. Pourquoi? Parce que ça souligne déjà que cela vient de l'Éternel et que l'Éternel a agi en notre faveur. Parce que le plus grand danger, et c'est ce psaume nous le dit très clairement, c'est d'être sans l'Éternel. Mais la plus grande joie et la plus grande sécurité, c'est d'être avec l'Éternel. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous allons prier. Ô notre Père, notre Dieu, ce psaume, cet écrit, guidé par le Saint-Esprit que David a écrit, nous pousse à nous rappeler que tu es un Dieu de délivrance. Seigneur, nous sommes souvent oublieux. Et même les choses qui nous ont le plus touchés, qui nous ont le plus marqués, parfois avec le temps, commencent à perdre de la force dans nos cœurs. Et Seigneur, j'aimerais te prier que ce matin et tout à nouveau dans nos vies, nous puissions à nouveau être saisis, particulièrement par ta délivrance du péché, en Jésus-Christ. Que cela, Seigneur, nous submerge et nous amène vers une reconnaissance profonde et sincère. Et Seigneur, par-dessus, tu nous permets même de constater que dans nos vies, nous avons déjà vécu tant de délivrances pour plein de choses dans nos vies, dans la vie courante, dans des décisions à prendre, dans des vies protégées, dans des besoins financiers couverts, dans tant de domaines, Seigneur. Et nous voulons te dire merci. Merci pour ces délivrances qui, même s'ils ne sont pas en lien avec l'éternité, sont des signes qui manifestent une délivrance bien plus grande et qui a une portée éternelle. Quelle grâce, notre Seigneur et notre Dieu, de pouvoir en appeler à toi. Tu es notre secours. Et nous voulons, Seigneur, te remercier parce que tu es le secours de tout pèlerin qui chemine vers la Jérusalem céleste. Quelles que soient nos circonstances, quel que soit notre état et notre maturité, tu es, Seigneur, notre secours. Parce que tu es celui qui a fait les cieux et la terre. Et nous voulons, Seigneur, bénir ton nom et t'adorer, toi, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.